Nous allons faire à présent un saut. Grâce à la communication de M. Cominet, nous sommes déjà passés par le Vietnam et nous allons y rester avec la communication de notre collègue et ami Philippe Papin, grand spécialiste des inscriptions vietnamiennes et du tunom, donc de la, ce qu'on appelait autrefois le démotique, je ne sais pas si on l'appelle toujours le démotique, oui, excusez-moi, et vietnamien, qui est l'un des cas les plus singuliers de ce monde sinoglossique. Philippe, oui, évidemment, donc je ne le présente pas lui non plus. Vous savez qu'il a supervisé la monumentale édition des inscriptions vietnamiennes qui a été publiée sous les auspices de l'École française d'Extrême-Orient.
Et de l'École pratique des hautes études.
Et de l'École pratique des hautes études, c'est vrai. Et maintenant de PSL, mais on pourrait presque dire. Il est l'un des mieux placés, peut-être même le mieux placé en France pour nous parler de ce phénomène.
Merci beaucoup, Jean-Noël. Bonjour à tous. Alors, vous voyez que sur cette première page qui annonce ma conférence, on commence par un texte donc en écriture vernaculaire ou démotique, donc en nôme, j'y reviendrai, dans un contexte d'une histoire galante et lettrée. Vous voyez à l'arrière-plan en haut la ville de Hue, qui est représentée sur donc cette histoire de Luc Van Thien, qui date de la mi-19e siècle, et dont il existe un manuscrit complet, dont voici une page. Juste après, voici, à l'autre bout du spectre social en quelque sorte, un exemple d'écriture vernaculaire issue d'une stèle villageoise tardive, elle est de 1934, et qui est entièrement, si ce mot veut dire quelque chose dans le contexte, entièrement en caractère démotique. Donc voilà, en haut et en bas de la société, en quelque sorte, deux exemples d'usage du démotique. Vous voyez tout de suite, dès la première colonne, que ça ne se lit pas facilement, évidemment. Bref, représentation donc du Vietnam qui se trouve, pour donner le contexte linguistique, à la croisée des civilisations s'exprimant au nord à l'aide de sinogrammes et au sud à l'aide du sanskrit et de ses extensions syllabaires d'Asie du Sud-Est. Les deux plus anciennes inscriptions du Vietnam, les voici, illustrent cet état de fait, cette espèce de partition linguistique. Vous avez à gauche la stèle dite de Vo Cang qui a été rédigée en sanskrit au IVe siècle et qui est d'ailleurs constitue la plus ancienne trace assurée du bouddhisme en Asie du Sud-Est, donc à gauche, en sanskrit, et à droite, et c'est une stèle qui vient toujours du Vietnam, une stèle en chinois, la première, qui a été gravée en 618, donc l'une en sanskrit, l'autre en chinois. Ainsi donc, nous avons du côté du sud, donc du côté du Champa, le sanskrit et les écritures propres à une monarchie hindouisée, qui prolonge le Cambodge, Java et l'Inde, et surtout l'Inde du Sud, et puis au nord, là, du côté du royaume du Dai Viet, on trouve les caractères chinois qui reliaient le Vietnam à l'Extrême-Orient en général. Je m'intéresse évidemment au côté nord, donc au versant, disons, sinisé du Vietnam, et aujourd'hui plus particulièrement aux relations entre le chinois, qui au Vietnam était une langue étrangère, bien sûr, et l'écriture vernaculaire ou démotique, appelée nôm, qui a permis de transcrire tout simplement le vietnamien parlé. Voici, pour attendre une seconde scène du manuscrit Luc Van Thien. Alors, premièrement, la position que représente le démotique ou le vernaculaire dans le système linguistique général du Vietnam. Premièrement, rappelons, et on l'a dit tout à l'heure, que le Vietnam a vécu plus d'un millénaire sous domination ou sous administration directe de la Chine, de à peu près moins 200 à 870 en date ronde. Et donc, le Vietnam a adopté très tôt l'écriture en chinois. Celle-ci était utilisée par l'administration, bien sûr, c'était la seule, mais également, et c'est très important, par les moines et les congrégations bouddhiques. Et entre parenthèses, les caractères démotiques vont aussi passer par les congrégations bouddhiques. Ça a été un vecteur très important qui permettait de toucher, évidemment, l'ensemble du tissu rural. Ce chinois classique, utilisé au Vietnam, je dirais même d'ailleurs très classique dans le cas du Vietnam, où on était plus royaliste que le roi, comme c'est souvent le cas, ce chinois classique va dominer largement jusqu'au XXe siècle. Donc, disons, les années 1900 pour le sud du Vietnam et les années 1930 pour le nord du Vietnam. Donc, c'est quand même une très longue histoire qui fait que 90% de la documentation historique sur le Vietnam est en chinois, sans usage du vernaculaire, sans régionalisme. La chose est dite. 90% de la source est du chinois classique. Cependant, si les Vietnamiens écrivaient le chinois, ils parlaient bien sûr leur propre langue. Celle-ci a commencé à s'écrire, à pouvoir s'écrire autour du XIIIe siècle, par le démotique justement, mais finalement, au début, assez rarement. Je viens de le dire pour les sources manuscrites, mais c'est également le cas, et c'est plus surprenant, pour les sources épigraphiques, donc pour ces stèles qui étaient érigées dans les villages et qui étaient connectées à la vie populaire, villageoise. On aurait pu penser que le démotique se serait développé particulièrement tôt. Or, il n'en est rien. Bref, l'écriture du vietnamien parlé est à la fois rare et tardive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais j'essaye de poser ici le cadre général. Il y a évidemment une raison structurelle à cet état de fait. C'est que le lexique du vietnamien parlé était déjà, pour une grande part, du chinois. C'est-à-dire que le millénaire de présence chinoise, puis la forte influence culturelle de la Chine au siècle suivant, ont puissamment modifié la langue autochtone, cette langue qu'on tente aujourd'hui de reconstituer sous le nom de proto-Viet Mueang, mais qui est extrêmement théorique, mais qui était dissyllabique, par exemple. Eh bien, cette langue, très très tôt, a disparu sous l'influence très forte du chinois. Des milliers de mots nouveaux ont été introduits au Vietnam, des milliers de mots anciens se sont modifiés. Et donc, en quelque sorte, c'est au moment où s'est installée la pratique de l'écrit que le vocabulaire vietnamien s'est rapproché considérablement du vocabulaire chinois. Ce qu'on écrivait dans une langue, le chinois, se disait à l'identique dans l'autre, le vietnamien. Et puis, plus l'écrit se diffusait, plus le lexique se sinisait, tant il est vrai que l'écrit modèle beaucoup plus l'oral que l'inverse. Aujourd'hui encore, dans la langue vietnamienne actuelle, on estime que 70% du lexique est d'origine chinoise directe. Bien sûr, il se prononce à la vietnamienne. Il n'empêche que l'origine, évidemment, chinoise. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que, d'ailleurs, c'est un chinois plutôt ancien et on le repère sur les consonnes initiales où on retrouve dans le vietnamien d'aujourd'hui les mots vietnamiens d'origine chinoise, une diction qui était celle de la Chine des Tang. À peu près, c'est assez intéressant du point de vue de l'usage du vietnamien comme conservatoire de la prononciation d'un chinois ancien. La plupart du temps, l'origine du chinois vietnamien se devine assez bien. Si je veux dire université des sciences sociales et humaines, je dirais Dai Hoc Khoa Hoc Sa Hoc Nhân Văn. Je pense que qui connaît le chinois, le chinois du Sud, comprendra de manière assez transparente. Mais la plupart du temps, cette origine ne se devine pas, tant les emprunts ont été vietnamisés, modifiés par la prononciation vietnamienne. On s'aperçoit même qu'il existe beaucoup de vocables, enfin je m'en aperçois en fait assez régulièrement, qu'il existe beaucoup de vocables qui à l'oreille sonnent très très vietnamiens, mais qui en réalité, quand on se penche un peu sur la chose, sont d'origine chinoise. Je m'en suis aperçu récemment avec un mot qui semble vraiment très vietnamien, qui se dit « kè », qui veut dire raconter, narrer une histoire, et qui d'évidence est le caractère « kè » en chinois, en sino-vietnamien, la clé de la parole est le chiffre 10, qui est donc faire une liste, ordonner, présenter les choses succinctement, enfin successivement. Et donc il y a ce que je veux dire par là, c'est pas très original du point de vue linguistique, ces emprunts. D'ailleurs, ils sont, après tout, qui devinerait que derrière la redingote française se cache un riding coat britannique, ou que derrière un farfelu français se cache un farfalla ou un papillon italien. Donc évidemment, c'est classique ce genre d'emprunt. Mais je le rappelle, pour expliquer que la distinction entre les deux sources, le Han et le Viet, le chinois et le nôme, n'est pas aussi simple qu'on peut le croire, et qu'entre les deux, il y a toute une frange de mots qui occupe une très grande place en réalité du vocabulaire. Cela dit, la proportion d'environ 30% du vocabulaire vietnamien par rapport à 70% d'emprunts du chinois me paraît être la proportion la réelle. Alors, ces caractères vernaculaires, on appelle ça en vietnamien le nôme. Nôme. Nôme, c'est un doublon du mot nam qui veut dire le sud. L'idée, donc, c'est que le nôme, c'est l'écriture de chez nous, du sud. Étant entendu, le sud de la Chine, évidemment. De même qu'on dit en vietnamien « Thuoc Nam » pour dire les médicaments du Sud, c'est-à-dire les médicaments vietnamiens. Ici, « Sud » veut dire « vietnamien ». Cette écriture apparaît vers le XIIIe siècle. Il y a quelques occurrences avant, mais qui ne sont pas très nettes. Apparaît vers le XIIIe siècle, donc, et comprend, à son acmé, fin XIXe siècle, un stock de 8000 caractères. Alors évidemment, ces caractères démotiques vietnamiens sont nés surtout de la nécessité de pouvoir écrire des réalités n'ayant pas d'équivalent tout simplement dans la langue chinoise. C'est surtout les noms de plantes, qui sont évidemment des marqueurs locaux, des plantes qui n'existaient pas en Chine, et puis un cas très fréquent, et peut-être même à mon avis le plus fréquent, qui sont des noms de lieux, et plus précisément des noms de lieux dits internes au village, donc des manières populaires d'appeler des lieux dits dans les villages. En tout cas, ce sont des termes qui ne figuraient pas dans la nomenclature officielle, nomenclature administrative officielle, et qu'il fallait bien pouvoir écrire. Alors, voici un cas assez représentatif d'une stèle qui est datée de fin XVIIIe siècle, donc 1770. Je l'ai prise, par hasard, mais le hasard fait qu'on tombe sur à peu près la totalité des stèles, XVIIe, XVIIIe siècle, et même XIXe, où vous voyez que les caractères nomes que j'ai entourés en rouge concernent essentiellement les noms de lieux dits, internes au village, avec 5 occurrences, c'est encore assez minoritaire. C'est à peu près la proportion qu'on va trouver dans la plupart des quelques 35 ou 40 000 inscriptions du Vietnam. Tout ça pour remettre un peu les choses en place, vous comprenez, par rapport à la place qu'occupe le nom dans les textes vietnamiens. Voici maintenant un texte qui date de 1834, sur un estampage qui n'est pas très bon, je m'en excuse, mais c'est moi qui l'ai fait et ma technique n'est pas encore parfaite, vous le voyez. Mais vous voyez que sur cet estampage, on constate maintenant que il y a 25 occurrences de nomes pour un texte qui est plus court que le précédent. Donc, arrivé à la moitié du XIXe siècle, quand même, ce nom se répand. Mais il faut dire que là, en fait, on cite beaucoup de noms de lieux dans lesquels se trouvaient des rizières. Donc, comme c'est une énumération de parcelles rizicoles, c'est aussi une énumération de noms de lieux. Et donc, tous ces noms de lieux sont en nomes, comme vous le voyez ici. Je ferai un agrandissement tout à l'heure. En l'occurrence, c'est donc ici un nom personnel d'un monsieur qui s'appelait Tu, c'est tout à fait à droite, et puis une unité de mesure, et puis tout le reste, ce sont des lieux-dits. Donc, dans tous les cas, on retrouve ici les manières les plus fréquentes de fabriquer du nom. Cette question de la création des caractères démotiques est une question extrêmement complexe qui pourrait mériter une journée de conférence, donc j'ai voulu simplement faire comprendre le système en présentant l'essentiel, c'est-à-dire les deux grandes méthodes, les deux grandes manières de fabriquer ce démotique. Et j'ai repris ici les cas que j'ai présentés, qui figuraient dans les stèles précédentes. Donc vous voyez, on peut aller assez vite, il y a deux grands systèmes. Le système phonographique, où c'est un emprunt direct du son. Et là, je peux prendre qu'un seul exemple. Là, ici, c'est une création, mais ici, le mot « cat », je le prononce évidemment à la sino-vietnamienne, parce qu'il faut que le jeu de mots fonctionne. En sino-vietnamien, on prononce « cat », donc « fast », »,« heureux », »,« de bon augure », et exactement un homophone de « cat » qui veut dire « le sable ». Donc, je veux écrire « le sable » en vietnamien, je prends le mot qui veut dire « de bon augure ». J'aurais pu prendre un autre, d'ailleurs, pourvu que le son fût « cat », c'est assez simple. Ici, c'était donc un homophone parfait, « cat », qui veut dire « cat » en vietnamien. Ici, vous avez un quasi-homophone pour dire un « sao », c'est-à-dire 360 mètres carrés de terrain, l'unité de mesure qui existe au Vietnam depuis au moins le XIVe siècle. On veut dire le mot vietnamien, je suis obligé de le prononcer, on veut dire « sao ». Mais on ne sait pas comment le dire, donc on prend le sino-vietnamien « cao », et on estime que « cao » et « sao » veulent dire la même chose. Et voilà le caractère nôme qui est créé par un emprunt direct d'un quasi-homophone. Deuxième système. Ça, c'est le système vraiment essentiel, à mon avis, le plus important pour le nôme et donc le plus compliqué, car tout repose sur le son, et donc sur la prononciation, et donc sur la région où on prononce. Le deuxième système, sur lequel généralement on s'appesantit beaucoup, parce que c'est le plus drôle, c'est le système, donc, disons, phono. D'ailleurs, pour nos amis anglophones, ça serait peut-être mieux de le mettre en anglais, pardon. Le système donc, qu'on pourrait appeler phono-sémantique, qui donc est une création originale cette fois, d'un caractère qui n'existait pas en chinois, qui combine un élément pris pour le sens et un élément pris pour le son. On ne va pas tout détailler, mais prenons juste un exemple très simple. Par exemple, Chang, le citronnier, vous voyez très bien qu'on a fait une combinaison du sens, l'arbre, avec une combinaison du son, Chang, qui veut dire se disputer, comme tout le monde le sait, mais qui ici, à l'oreille, rappelle Chang, qui veut dire le citron. Et donc, c'est donc un jeu de mots, et pour aider le lecteur, on met une clé, ou on met quelque chose, d'ailleurs, qui rappelle le sens. Ça, c'est d'ailleurs, c'est à peu près 20% du nôme. Vous avez aussi un exemple qui est assez amusant, amusant pour moi, en tout cas, ce qui n'est pas amusant forcément pour tout le monde, par exemple, justement, les anguilles, qui sont assez une drôle de façon aussi de le faire. Je dis ça parce que j'ai perdu un peu de temps à comprendre qu'il s'agissait d'anguilles. Et il faut vraiment fonctionner au sens. Et je savais, il faut savoir quel est le sens, où est le sens, où elles sont. Déjà, il faut bien déterminer. Ayant la clé du reptile ou de l'insecte, déjà, on se doutait que c'était quelque chose qui devait filer dans l'eau ou dans l'air. Et après, il faut le prononcer. Et donc, je le prononce juste pour le son, ce petit bouclier. Et je me dis, ah oui, tchac, tchac, il faut chercher. Il me dit, tchac. Qui n'a rien à voir avec le sens en chinois. Ici, c'est forcément une anguille qui se dit de la même manière. Simplement, imaginez qu'elle se dise autrement, l'anguille, dans une autre région du Vietnam, elle se dise chik ou chok ou chuk. Alors là, il faut prendre un autre caractère. Il y a autant de caractères nomes qu'il y a de régions. Puisque la moitié est phonologique, et dans le cas ici, c'est même l'entièreté est phonologique. Donc voilà le système général. Il y a plein de choses qui peuvent être un peu différentes. Mais ce sont... Il y a donc ces deux méthodes, le cas d'assemblage de deux éléments. Oui, non, j'ai oublié de dire, excusez-moi, qu'il y a aussi des cas plus compliqués, mais qui valent la peine d'en parler, ne serait-ce que. Je n'explique pas cette slide, je vous laisse deviner, parce qu'en fait, en réalité, quand on dit qu'il y a assemblage du sens et du son, très souvent, en fait, c'est le sens et la moitié du son. Ne serait-ce que pour raccourcir le caractère en taille. Et donc, c'est là où est le piège. Parce qu'il nous manque une moitié, mais laquelle ? Et là, je donne un exemple particulier où, normalement, si on n'a pas bien cherché, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui, entre le tout phonétique, premier système, ou bien l'assemblage phonétique-sémantique, laquelle de ces deux méthodes a été la plus fréquente pour faire du nôme. Alors, ça dépend des époques, mais la réponse est quand même assez claire. La plupart du temps, jusqu'au 19e, c'est le tout phonétique qui domine absolument le lexique du démotique, contrairement à ce qu'on croit en général. Par exemple, dans les 254 poèmes du XVe siècle qui sont regroupés dans un recueil poétique en langue nationale, en vietnamien, sino-vietnamien, quoi, un petit tap. Dans ce recueil, donc, XVe siècle, en langue nationale, en démotique, eh bien, 90% des caractères sont des emprunts directs. 10% seulement sont des assemblages. Autre proportion, elle est de 81% dans les écrits du jésuite Geronimo Mallorca, qui est mort en 1656 et qui nous donne beaucoup de textes en démotique. Eh bien, dans les écrits de ce jésuite, 81% des caractères démotiques sont des emprunts directs, sans modification graphique des caractères. Alors, nous avons un texte que je voulais présenter aujourd'hui. Non, c'est ici, pardon. Voilà. Alors, ce texte s'appelle, donc en sino-vietnamien, le Chi Nam Ngoc Eum Zai Nghia, donc mot à mot, le guide des définitions des sons précieux, ou en traduisant de manière un peu plus explicite, le dictionnaire des mots chinois rendu dans la belle prononciation du vietnamien. Il a été produit en 1641, et c'est le premier, finalement, dictionnaire de nomes ou de démotiques. En fait, c'est un dictionnaire de chinois, mais qui servait à apprendre le chinois en passant par les caractères démotiques. Ce qui a fait dire à Keith Taylor, qui a étudié ce dictionnaire, qu'il était finalement tout à fait typique de la crise qui a eu lieu au XVIIe siècle, après 120 ans de guerre, où il a fallu reformer une élite qui puisse réapprendre le chinois quasiment à zéro, et on leur a fourni ce lexique dans leur écriture, de manière à réapprendre le chinois. Alors c'est le paradoxe, parce que ce texte, nous, on s'en sert pour apprendre le démotique, alors qu'à l'époque, il servait aux étudiants vietnamiens à réapprendre le chinois. Reste que c'est une base très solide, car c'est un long poème composé dans la métrique typiquement vietnamienne du 6-8, un vers de 6, puis un vers de 8 pieds, syllabes, avec une rime intérieure et un parallélisme des tons. Donc c'est vraiment le type même de la poésie vietnamienne, un long poème 6-8, qui comprend 3394 vers, et chacun de ces vers offre une définition du chinois, des mots termes chinois en nôme. Alors, ces définitions sont rangées dans 39 rubriques thématiques, astronomie, géographie, morale, vêtements, logement, agriculture, étoffe, funérailles, musique, etc., etc. Voici, par exemple, la première page, c'est-à-dire, ça, c'est le premier folio après la page de titre, qui concerne, comme vous le voyez, le chapitre sur la géographie, avec les mots qui sont, enfin, les caractères, pardon, qui sont en gros et en gras, à chaque entrée, sont les entrées en chinois, et juste après, en non gras, vous avez l'explication en démotique. Donc à chaque fois, c'est ça pour chaque mot. Donc voilà le système, et le tout compose un très long poème. Alors dans ce recueil de 1641, les deux systèmes coexistent, à la fois emprunt phonétique global et puis assemblage phonéto-sémantique. Cela dit, je l'ai dit, 80% c'est de l'emprunt direct. Alors voici, j'ai fait juste un petit extrait, j'ai pris cet exemple qui se trouve évidemment dans le chapitre traitant de la vie rurale. Ce n'est pas toujours très, très facile en fait, à comprendre comment les choses sont faites, parce qu'elles s'insèrent dans un poème complet. Mais vous voyez les commentaires là-haut. Donc, ici, en gras, j'ai repris la graphie, ici. Donc, Mukdong, la Che, Chonbor. Donc là, les Mukdong, parce que je vais le laisser en sino vietnamien, sont les jeunes bouviers. Donc là, à chaque fois... Et puis ici, vous avez, pareil, donc Sonian en gras. Et ensuite, là, ils ont formé carrément une phrase. Ce n'est pas vraiment une définition. Les jeunes qui coupent l'herbe, ce sont ceux qui font paître les buffles. Donc on essaye de mettre le plus de mots possible, mais ce qui est important pour nous, évidemment, ce sont les caractères. Ici, vous avez « la », ici, vous avez « quand », par exemple. Et j'ai pris deux illustrations de l'emprunt direct qu'on voit très clairement ici. « Jeune », mais prenons l'herbe, c'est le plus simple, pour aller vite, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est très intéressant parce qu'on prend directement le caractère « co », emprunt direct, alors que très vite, au 19e, on mettra la clé de l'herbe pour distinguer. Mais à cette époque-là, on ne le fait pas. Idem pour le caractère « jeune », qui est assez intéressant d'ailleurs. On prend directement le caractère de la cérémonie, « lei », qui veut dire à la fois « che », lent, tardif, et qui veut dire aussi « che », jeune. Mais on n'utilise pas encore le caractère complexe, on va rajouter la notion de petit de manière à éclaircir le sens. Donc, au XVIIe siècle, on en est encore en fait beaucoup à l'emprunt direct. Et en lisant un peu ce dictionnaire-là, qui n'est pas toujours très facile à comprendre d'ailleurs, parce que la langue est ancienne, eh bien, on s'aperçoit que l'emprunt direct est censé suffire à comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce dictionnaire comporte deux courtes préfaces qui ont été étudiées bien avant moi par Kisteller et maintenant par John Fan. Deux courtes préfaces qui permettent de passer un peu aux choses plus qualitatives sur la question du démotique. D'abord, il y a une préface en nôme qui comprend 40 vers, et puis ensuite une préface en han, donc en chinois, courte elle aussi, mais qui est en prose. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux préfaces ne sont pas des traductions, c'est-à-dire qu'elles sont différentes. La préface du dictionnaire en nôme parle de la question du nôme, du démotique, tandis que la préface en han, en chinois, elle n'en dit pas un mot, et elle traite en revanche de la question de l'écriture en général. Alors que dit la préface de ce livre en écriture vernaculaire ? La préface en écriture vernaculaire de ce livre, pardon. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence par justifier le nôme, le démotique, en le rattachant à une des six écritures, donc Luk Tu en ancien vietnamien, du chinois, les six écritures définies en Chine depuis les Han, donc exactement à la fois à ce qu'on appelle l'écriture de la forme son, quoi, donc le Xin Cheng, si je prononce pas trop mal, c'est-à-dire l'alliance d'un élément sémantique et d'un élément phonétique, comme on vient de le voir. C'est une opinion très paradoxale que celle de ce préfacier du dictionnaire, parce que précisément dans son dictionnaire, cette forme-là n'apparaît que dans 20% des cas à peine. Mais c'est celle-là qu'il met en avant. Et pourquoi est-ce qu'il la met à l'avant ? Ben, on s'aperçoit que c'est parce qu'il suit une stratégie qui consiste à présenter le démotique, le vernaculaire, comme une écriture ordinaire, qui appartient au système des écritures du chinois. L'écriture démotique, dit-il, n'est pas étrange. Elle n'est pas étrangère aux écritures de l'Empire. Elle est au contraire parfaitement intégrée dans le système général des écritures reconnues en Chine depuis des siècles. Il affirme, le préfacier, d'ailleurs, que le nôme est une manière de, je cite, « domestiquer le Sud ». C'est l'expression qu'il emploie. En gros, de faire rentrer ce Sud, donc le Vietnam, dans la grande civilisation, les traits des caractères chinois. Aussi bien, cette préface en nôme n'est pas une apologie de la langue et de l'écriture locale en tant que telle. Elle n'est pas non plus une valorisation du vietnamien en soi. Elle n'est pas une défense d'un système d'écriture alternatif au chinois. Elle fait l'éloge de l'écriture vernaculaire, certes, mais en tant que cette écriture vernaculaire ou démotique constitue une extension, que je dirais technique, des caractères chinois. L'auteur de la préface ne veut pas mettre en avant les caractères originaux de l'écriture vietnamienne de la langue, il veut à l'inverse souligner que le nôme et le han sont de la même famille et que le nôme appartient de plein pied au système linguistique de l'Empire. Donc, le préfacier ne veut pas rompre, mais au contraire se rattacher au système des écritures chinoises, qui est assez intéressant comme position parce qu'il le fait sur la base de 20% de son dictionnaire. En réalité, tout dit le contraire. Mais lui, c'est la stratégie légitimatrice qu'il poursuit. Bon, dans la suite de sa préface, en fait, à la fin, quand il commence à aborder les emprunts phonétiques, on pourrait s'attendre à ce qu'il les condamne. Bon, pas du tout, il passe très rapidement sur les emprunts phonétiques en disant que c'est une manière de faire du nôme. Oui, c'est quand même 80%. Il en mentionne l'existence rapidement en disant que ça ne nécessite aucune explication, car ces caractères nômes faits d'emprunts phonétiques se comprennent, dit-il, intuitivement. En bref, donc, notre préfacier défend les deux types de notation avec une préférence pour le phono-sémantique, qui est plus clair, dit-il, et qui constitue surtout le point d'accroche à la Chine. La suite de l'histoire, c'est que les caractères phono-sémantiques, donc les assemblages, sens et son, vont se développer. Ce sont eux qui vont grandir dans le lexique, mais pas tant que ça, d'abord, et tardivement, au XIXe siècle. Par exemple, les éditions du XIXe siècle du roman Kim Van Kyo, le roman de Kyo que tout le monde connaît, normalement, sont encore composées à presque 80% d'emprunts phonétiques directs. Donc, je rappelle ça parce qu'en fait, c'est toujours les autres caractères assemblés qu'on met en avant parce qu'ils sont plus drôles et plus presque cocasses parfois. Mais en réalité, ce n'est pas la manière essentielle de faire le nôme. Le démotique en tant que grammaire, maintenant, parce que justement, on parle souvent du lexique et des termes. Mais en réalité, et ça, c'est la pratique de l'épigraphie qui nous l'apprend, à mon avis, le démotique, ce n'est pas tant le lexique que la grammaire. Je crois qu'on n'y prête pas assez attention, alors que c'est pour moi le marqueur essentiel. Comme vous le savez tous ou presque, la grammaire vietnamienne est, disons, inverse de la grammaire chinoise, puisque en vietnamien, on a d'abord le déterminé, puis le déterminant, alors qu'en chinois, c'est évidemment l'inverse. Alors, si on peut adopter ou adapter des vocables étrangers assez facilement, en revanche, c'est évidemment beaucoup plus dur pour la grammaire. Et c'est là où on arrive à des constructions plus compliquées. En voici une, mais il y en aurait beaucoup d'autres. En haut, par exemple, qui est un extrait, vous voyez que ce sont simplement des inversions. C'est comme on dirait la bleue maison ou la maison bleue. Ici, en l'occurrence, prenons tout simplement le premier. On trouve très souvent en vietnamien, je le prononce en sino-vietnamien, pardon, bi-tech, au lieu de tech-bi. Donc ça va pas loin, mais ça choque une oreille, ça va pas très loin. Quand il y en a deux encore, on les comprend. Ou le deuxième aussi, on le comprend très bien quand on a traduit mot à mot en vietnamien, Ong Chang le mari, pour Nhien Phu, Phu Nhien. Donc ça, c'est quand même assez compréhensible, et c'est une inversion qui est encore très simple. Néanmoins, c'est de la grammaire. Cela dit, plus bas dans le texte, en voici un exemple parmi mille, quand on a une phrase un peu compliquée, qui commence en rouge ici, et qui se continue là, et que j'ai retapé ici, là, franchement, si on n'a pas le vietnamien pour faire une traduction mot à mot, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir. Et encore, vous voyez, il y a encore 6 ou 7 caractères, mais quand vous avez une phrase entière où vous avez en fait du chinois donné dans la grammaire vietnamienne, alors on a un texte qui est finalement en démotique. C'est pourquoi je propose de considérer comme démotique toute forme en fait, grammaticale qui est du vietnamien, avec un argument assez simple, c'est qu'au bout du compte, c'est incompréhensible en chinois, alors que c'est transparent pour un vietnamien. À partir de là, il me semble que c'est du démotique, même si aucun des mots n'était en nôme. Aucun des caractères n'était en nôme, ça suffirait à faire du démotique. Mais là, on a toujours un petit peu qui sont en nôme. Ou des exceptions, qui sont parfois en nôme. Par exemple, hua, ici, qui sert toujours pour dire char en vietnamien. Ça, ce sont des exceptions. Donc ça, moi, je considère ça, disons, l'ordre des mots me semble être un démotique. Et pour le haut, c'est pour ça qu'il y a une manière de aussi considérer le démotique, et qui est en fait la mienne, celle de notre équipe vietnamienne, qui est que, par exemple, ici, je reprends un exemple très simple. Évidemment, je pourrais le lire en sino-vietnamien et le lire « bi-tech » et comprendre que ça veut dire « la stèle en bière ». Mais en fait, en vietnamien, « bi-tech » ici, il veut dire « bi », c'est « bia », et « tech », c'est « da », et donc c'est « bia da » directement. En réalité, ce qu'il faut faire quand on rencontre ce vocable dans un texte, la grammaire est inversée, donc ce n'est pas du chinois. C'est du vietnamien. Et si la grammaire est inversée, alors il faut que je le lise à la vietnamienne. Il ne faut pas le lire bitech. Il faut le lire directement biada. C'est du nôme à traduction automatique au moment où on le lit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est encore un des endroits où se niche le démotique dans un texte, c'est-à-dire qu'il suppose à la lecture une traduction directe dans la langue vietnamienne. Je vois bien qu'il y a marqué bi en signe vietnamien, mais il faut le lire bia. Je vois bien qu'il y a marqué tech, mais il faut le lire da. Et il faut donc dire biada. Et quand on a une phrase entière, elle devient transparente en vietnamien, pour peu qu'on fasse cet effort de traduction automatique au moment de la lecture. C'est d'ailleurs ce que le préfacier du dictionnaire de 1641 appelait la compréhension intuitive. En fait, il n'avait pas tort. Pour ce qui est du devenir du nôme, aux époques postérieures. Je commence par dire en fait quelque chose qui m'apparaît comme une étrangeté. C'est qu'en réalité, quand on y réfléchit, cette écriture démotique ou vernaculaire, des textes longs, hein, parce que les petites occurrences comme ça, c'est facile, mais l'écriture vernaculaire sur des phrases ou des textes longs, en fait, est très rare sur les stèles villageoises. Elle est même quasi inexistante, à part l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et elle est également très rare dans les documents de la cour, à part à la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons politiques particulières. Autrement dit, et pour le dire même un peu trivialement, l'écriture en chinois se trouve en bas et au milieu de la société. On écrit en chinois dans les villages, on écrit en chinois classique à la cour, et l'endroit social où se loge l'écriture démotique, c'est au milieu, c'est-à-dire les lettrés, et je dirais même les lettrés en marge du mandarinat. Les lettrés qui n'ont pas toujours été jusqu'au bout des examens ou qui ont arrêté assez tôt. Mais d'ailleurs, c'est le cas de Yuan Dingqiu, dont j'ai présenté tout à l'heure le Luk Vantien, le premier poème encadré de motifs historiés. Donc, en fait, le démotique, paradoxalement, est utilisé par la frange lettrée et peu administrative de la société, mais pas le peuple et pas la cour. Donc, c'est déjà assez étrange, en réalité, parce qu'on aurait pu croire franchement l'inverse. Que le démotique soit utilisé comme langue nationale pour mettre en avant les caractères nationaux, ou par le petit peuple pour dire sa propre langue. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûrement pour ça que le démotique ne s'est pas développé. En tout cas, ce démotique, et on aurait du mal à le dire populaire, malgré, on va dire vernaculaire, il n'est pas socialement populaire, c'est le moins qu'on peut le dire. Et là, l'épigraphie est le meilleur des moyens de mesurer la chose. Donc ce n'est pas un langage populaire. Mais incontestablement, par contre, il est national. Et c'est là où, justement, le devenir du caractère nouveau va être important. Un énorme effort a été fait à partir de la moitié du XIXe siècle par un empereur lettré, qui s'appelait Tuduk, qui a pris en main, faute de pouvoir faire de la politique dans le contexte, il a pris en main la question de l'alphabet, enfin des caractères nationaux, et il a voulu normer, rentrer dans un lexique et dans un système, la fabrication des caractères démotiques. C'est le recours systématique, le caractère de la bouche, juste avant, pour signaler au lecteur « attention, ce caractère est un caractère démotique ». C'est le recours systématique aux créations de caractères par alliance du sens et du son, et donc la création, finalement, d'un stock complet de nouveaux caractères nomes. Mais ces caractères n'ont jamais, finalement, eu beaucoup de prise. D'abord parce que je crois que ce n'était pas une bonne idée, dans la mesure où le nome, on vient de le voir, il est profondément phonétique. L'emprunt direct de l'homophone ou du quasi-homophone, c'est 80% du lexique, c'est la manière paysanne de faire, et c'est la manière logique de faire, parce que l'emprunt dépend de la région dans laquelle on parle le nom. Vous savez, par exemple, je fais une petite parenthèse, qu'il y a une très grande polémique sur l'histoire de le roman Kim Van Kyo, où on recherche les caractères nomes en disant « mais pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là, ils sont différents ?» Mais il y a une raison simple à cela. C'est que l'auteur, Nguyen Du, était un homme du centre Vietnam et qui a vécu à la capitale. Il employait donc deux systèmes phonétiques du démotique, du vernaculaire. Le nôme de sa région, quand il parlait le vietnamien avec son accent régional, qui est très fort, et puis le nôme de la capitale, quand il parlait le vietnamien avec l'accent de la capitale. Et donc les parties phonétiques sont différentes à chaque fois. Donc son système est complexe et surtout il est dual. Même dans le grand poème en nôme du Vietnam. Il est dual parce que la prononciation de cet homme-là était dual aussi. La force du démotique était de s'adapter à la prononciation locale. Si on le norme depuis la cour, comme a voulu le faire l'empereur Tuduk, alors le système ne marche plus parce qu'il ne répond plus aux besoins des gens des provinces. Si vous vouliez prononcer un A et on vous impose un O, votre caractère nôme n'a plus aucun sens. Donc c'est une des raisons pour laquelle la volonté de normer le démotique par la cour, à mon avis, a été la cause de son échec. La seconde cause est beaucoup plus évidente, c'est qu'au moment où l'empereur Tuduk se met à ce travail de lexicographie, c'est la puissance coloniale qui débarque en 1858 à Da Nang, et à ce moment-là, les Français arrivent, c'est la colonisation. Il y a franchement autre chose à faire que de s'occuper des lexiques de démotique. Ensuite, je vais rapidement, c'est la déliquescence des milieux mandarinaux, c'est la fin du mandarinat, la fin des concours de recrutement, les lettrés qui changent de vie, un bouleversement social et culturel et même de civilisation au Vietnam qui fait que là encore, le nôme n'avait aucune raison d'être ressuscité, d'autant qu'il se fait doubler par un autre instrument quasiment comparable dans le fond, qui est l'écriture romanisée, mise au point au milieu du XVIIe siècle par les missionnaires, qui n'a pas été très connu, qui est resté confiné aux communautés catholiques jusqu'au XIXe siècle, au moment où les Français arrivent, c'est une autre histoire. Il est porté non seulement par les Français qui veulent couper le Vietnam de la Chine, mais aussi par le mouvement national, nationaliste d'abord, communiste après, qui ont vu un excellent moyen de modernisation et de traduction d'ouvrages étrangers. Au moment, si vous voulez, où politiquement le démotique aurait pu être utilisé, il ne l'est pas, parce qu'il n'y a plus le milieu lettré pour le faire, d'une part, et puis il y a le romanisé qui va être la grande affaire de la linguistique vietnamienne au XXe siècle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, le grand débat a été sur l'écriture, donc en Quoc Ngu, donc en vietnamien romanisé. Alors, il me semble que, ensuite, sur la politique... Je suis un peu en retard, ça va ? Sur la... La question des écritures en chinois, enfin que ce soit le nôme d'ailleurs ou le chinois, a été ensuite évidemment tributaire de la guerre au XXe siècle, vous en doutez, avec ses rapports un peu compliqués vis-à-vis de la Chine. Si tout va bien, au moment où le Vietnam est encore très maoïste, jusqu'en 1965, date ronde, après les choses se gâtent, évidemment, jusqu'à la guerre de 1979, pour rappel. Donc, ce Vietnam devenu indépendant, communiste mais indépendant, c'est d'autant moins occupé de ses affaires anciennes que, évidemment, le chinois n'était pas forcément bien vu. Alors, on a travaillé sur le nôme, évidemment, au sein de l'institut qui s'appelait le département Han Nôme, qui a été créé en 1970 et qui dépendait du comité des sciences sociales du Vietnam, devenu aujourd'hui l'académie. Donc ça, c'est 1970, donc déjà assez tardivement, comme vous le voyez. Auparavant, il n'y a aucun institut qui s'en occupe. Et ce premier département est devenu l'Institut Han Nôme en 1979, qui existe encore aujourd'hui, qui sont nos partenaires de tous les jours. 1979, c'est la guerre avec la Chine. Donc la position de tous les lettrés et des intellectuels vietnamiens a été un petit peu compliquée, disons, depuis l'indépendance jusqu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que, bien sûr, que tout le monde, il y a des très grands savants, des très grands érudits, mais un peu gênés et pas toujours très encouragés à travailler dans ce domaine. Et là encore, ça n'a pas contribué non plus au renouveau, du moins à la consolidation des études sur le démotique ou même tout simplement sur le chinois. Alors... Travailler sur le nôme, je l'ai dit, était un peu plus facile politiquement. C'est pourquoi on l'a fait dans les années 1980. Il y a tout un discours de légitimation nationale, et donc légèrement anti-chinoise sur les bords, il faut bien le dire, à l'aide du nôme. Seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez artificiel, puisque Han et nôme sont indissolublement liés. Le nôme seul n'a aucun sens, et pour comprendre le nôme, il faut déjà connaître le Han. L'un suppose l'autre, et l'autre l'un, autrement dit, c'est la quadrature du cercle, à la fois linguistiquement et politiquement. Alors, c'est cette impossibilité de faire le tri, ce qui nous met dans une configuration très différente, par exemple, de la Corée, de faire le tri dans l'héritage linguistique entre le Han et le Nôme, vu la position finalement minoritaire du Nôme, qui a un peu compliqué les affaires, et a conféré au Nôme une place très ambiguë dans l'imaginaire contemporain. Alors aujourd'hui, les choses changent, heureusement. Et je dis un aujourd'hui qui date d'à peu près il y a 10 ans. C'est-à-dire que le Han Nôme connaît, on peut le dire, un véritable développement, un véritable renouveau partout, dans toutes les universités de province où je passe. Il y a un département de Han Nôme qui se crée. C'est notable, ça, 10 ans, ce n'était pas le cas. Ceci est dû évidemment au contexte général, c'est-à-dire que la hausse du niveau de vie au Vietnam entraîne une hausse du nombre d'étudiants, enfin c'est tout à fait normal, mais aussi au fait tout simple que la politique au Vietnam tout simplement prend de moins en moins de place et que le Han Nôme a retrouvé, elle, lui, sa place naturelle, c'est-à-dire celle d'un instrument indispensable pour connaître l'histoire du Vietnam, toute considération nationale ou nationaliste mise à part. Le Vietnam redécouvre que le Han et le Nôme a été son latin jadis. C'est pourquoi je finis en clin d'œil à Jean-Noël, Robert, je vais oublier ce texte que je voulais vous montrer. Vous voyez en Nôme les deux premiers caractères, Toi la Pham Ti Kui, etc. Ça, c'est juste amusant, ça. Ce caractère qui veut dire habiter. En chinois, je le prononcerai normalement, sinon vietnamien, je prononcerai U. Et les Vietnamiens l'utilisent pour dire C'est éloigné, hein. Mais il faut comprendre, c'est le contexte. Et je vais vous les montrer pour finir, voilà, ce petit dictionnaire qui est assez intéressant, puisque, comme vous le voyez, c'est une page de dictionnaire de Pignot de BN, avec du nôme traduit en latin. Et ça, quand même, ça vaut la peine. Vous voyez ici, mais la mère, formée avec le caractère de la femme, le caractère qui veut dire jolie, qui se prononce mi. Voilà, matière. Donc, dictionnaire, quand même, chinois, nôme, latin, ça vaut quand même la peine. Et ça fait partie des nombreux dictionnaires que nous possédons pour étudier le démotique, mais qui commencent assez tardivement. Pardon d'avoir présenté une communication un peu heurtée. Je croyais vraiment être en retard. Et je vous remercie de m'avoir écouté.